Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Dimanche dernier, j'ai entamé une série sur le ministère du Saint-Esprit en posant un regard sur la personne du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit, afin que nous puissions l'adorer tel qu'il mérite d'être adoré. À ce moment-là, quand j'entamais cette série la semaine dernière, j'ai souligné que le Saint-Esprit est, du moins à mon avis, le membre de la Trinité le plus injurié. Il y a tant de personnes qui rendent le Saint-Esprit coupable de leur comportement, leurs paroles, leur expérience, alors que le Saint-Esprit n'a absolument rien à y voir. C'est une chose étrange, après avoir lu ce que nous avons lu dans les chapitres 14, 15 et 16 de Jean sur l'Esprit de vérité, que de voir, de se rendre compte que tant d'inexactitudes en rapport avec le Saint-Esprit, tant de mensonges, tant de trompeurs, tant de tromperies sont fondamentalement attribuées au Saint-Esprit pour gagner l'estime des gens de la part de ceux qui ont des désirs et des visées illégitimes. On accuse le Saint-Esprit de tant de choses terribles. La Bible nous met en garde contre cela. On nous met en garde contre le danger du blasphème, contre le Saint-Esprit. Malgré cette mise en garde, cela se poursuit. On nous met en garde, et je m'étendrai davantage dessus la semaine prochaine, contre l'insulte au Saint-Esprit. On nous met en garde contre le fait de résister au Saint-Esprit. On nous met en garde contre le fait d'attrister le Saint-Esprit. On nous met en garde contre le fait d'étouffer le Saint-Esprit. Et tous ces verbes concernent la façon dont nous parlons du Saint-Esprit lui-même. Mais il n'est pas simplement question d'essayer d'éviter de blasphémer, d'insulter et d'attribuer au Saint-Esprit des choses sans rapport avec lui. C'est bien plus que cela. Nous ne devons pas seulement éviter certaines erreurs par rapport au Saint-Esprit, mais nous devons véritablement et entièrement adorer le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait et qui il est en vérité. La semaine dernière, encore, je lisais un article de l'année 1657, écrit par John Owen, le grand puritain anglais si prolifique, qui a écrit des volumes et des volumes qui enrichissent notre compréhension des Écritures et de la théologie. Un traité très important que John Owen a écrit est une analyse de ce que c'est que communier avec Dieu, ce que c'est qu'adorer Dieu véritablement. Voici son titre dans une sorte de jargon puritain traditionnel. De la communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun pris individuellement dans l'amour, la grâce et la consolation. C'est un titre typiquement puritain. Il a aussi proposé un titre alternatif, la communion des saints avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit dévoilé. Dans ce traité écrit par John Owen, il en appelle à réaliser que nous avons reçu de chacun des membres de la Trinité, de façon individuelle, précise et particulière, certains avantages précis. Et, comme nous avons reçu ces avantages de chaque membre de la Trinité, nous sommes appelés à répondre de ces dons auprès de chaque membre, afin que notre adoration trinitaire ne soit pas mélangée, mais séparée. Il y a un passage des Écritures qui pourrait nous aider à comprendre cela. Quand on regarde le tout dernier verset du dernier chapitre de 2 Corinthiens, on lit ceci. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » C'est là une bénédiction trinitaire qui distingue les caractéristiques individuelles du ministère du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint vis-à-vis des croyants que nous sommes. C'est l'amour de Dieu. C'est cet amour divin, souverain, venant de Dieu. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Fils qui accorde la grâce divine, souveraine. Et c'est la communion du Saint-Esprit. L'amour divin vient du Père, la grâce divine du Fils et la communion divine de l'Esprit. Et l'apôtre Paul sépare ses membres distincts de la Trinité et identifie des aspects de leur ministère. Notre communion est initiée par l'amour du Père, ratifiée par la grâce du Fils, et communiquée par la communion du Saint-Esprit. Et quand même on reconnaîtrait que, tout au long des Écritures, il y a chevauchement dans l'œuvre de la Trinité, il y a tout de même une emphase sur ces œuvres spécifiques que chaque membre fait de façon unique. Je pense, pour la plupart d'entre nous qui adorons Dieu comme il se doit, sachant qu'il est un Dieu trinitaire et qui, reconnaissant qu'il est une essence, mais trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous avons tendance à tout mélanger et à l'adorer comme le Dieu trinitaire, ce qui, bien entendu, est une façon légitime d'adorer Dieu. Mais ce à quoi Owen nous appelle, c'est que nous commencions à séparer ces personnes dans la Trinité en reconnaissance de ce qu'elles nous ont apporté et comment nous devrions répondre spécifiquement à ces services spécifiques. Par rapport au Saint-Esprit, John Owen écrit « Le ministère de l'Esprit consiste à rappeler au souvenir les promesses de Christ, à le glorifier dans nos cœurs, à répandre en nous l'amour de Dieu, à nous rendre témoignage que nous appartenons à Dieu en ce qui concerne notre état et notre condition spirituelle, à nous sceller pour le jour de la rédemption, à être le gage et la garantie de notre héritage final, à nous joindre de consolation, à confirmer notre adoption et à être présent avec nous dans nos supplications. » Ensuite, Owen répond à l'œuvre du Saint-Esprit en disant « Voici la sagesse de la foi, découvrir et rencontrer le Consolateur dans toutes ces choses, pas pour en perdre la saveur en mettant sous l'éteignoir l'auteur, ni en manquant d'apporter les résultats que nous attendons. Chaque membre de la Trinité ayant fait, pour nous, ces choses spécifiques, doit être adoré en réponse spécifique à l'œuvre qu'il a faite. Serait-il juste qu'en tant que croyants, nous voulions éteindre le Saint-Esprit comme font quelques chrétiens? Nous ne voulons pas résister au Saint-Esprit. N'est-il pas juste que nous ne voulions pas le faire? Mais dans notre communion régulière et notre adoration régulière et notre louange régulière, nous devons identifier les trois personnes de la divinité dans la méditation, dans la prière et dans la soumission. Nous devons demeurer sur la miséricorde spéciale et le ministère spécial de chaque personne de la Trinité envers nous. Et nous devons spécifiquement répondre par l'amour et la soumission et la joie et la gratitude distinctement à chaque membre de la Trinité. Ceci, dit John Owen, est une pleine communion avec Dieu. Un autre de mes puritains préférés, c'est Thomas Godwin. Thomas Godwin écrit « Notre adoration se fait quelquefois avec le Père, ensuite avec le Fils et ensuite avec le Saint-Esprit. Quelquefois, nos cœurs sont poussés à considérer l'amour du Père en nous choisissant. Quelquefois, nos cœurs se penchent sur l'amour du Christ en nous rachetant. Et quelquefois, nos cœurs penchent vers le Saint-Esprit qui sonde les choses profondes de Dieu et nous les révèle. Et j'aime cette ligne. Et subit avec nous toutes les douleurs. Avez-vous jamais pensé à remercier le Saint-Esprit pour s'être donné tout le mal pour travailler sur votre sanctification? Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de m'enseigner. Merci de lutter contre la chair. Merci d'intercéder pour moi. Merci de m'avoir scellé et assuré. Merci de m'éloigner du sentier de la tentation. Merci de me donner la force face au péché. » Voilà donc à quoi Thomas Godwin appelle, et il dit « Ce n'est que lorsque nous comprenons l'œuvre de chaque membre de la Trinité, individuellement, que nous avons une véritable communion. » Il dit, je le cite, « Nous ne devrions jamais être satisfaits jusqu'à ce que toutes les trois personnes soient en nous de manière équilibrée. » Une belle façon de le dire, de sorte que nous nous asseyons, comme qui dirait, au milieu d'elles, pendant que toutes nous manifestent leur amour. C'est la plus grande promesse que Christ ait jamais faite dans cette vie, s'asseoir au milieu, comme qui dirait, de la Trinité, et être le bénéficiaire de tout l'amour de la part du Père, de tout l'amour de la part du Fils et de tout l'amour de la part de l'Esprit. C'est ici une véritable adoration. Nous avons passé énormément de temps, et nous le faisons, je pense, en tant que croyants, à penser à l'amour du Père, l'amour électeur, l'amour souverain, en pensant au sacrifice du Fils, à la grâce qui nous est donnée. Il y a plusieurs façons de considérer cela. Le Père initie notre salut, le Fils ratifie notre salut, le Saint-Esprit communique notre salut. Le Père nous choisit pour la vie, le Fils apporte le sacrifice qui nous mène à la vie, et le Saint-Esprit nous donne la vie. Et être capable de reconnaître le ministère de chaque membre de la Trinité revient à être capable d'avoir une adoration globale et une pleine communion. Ainsi, ce que nous essayons de faire dans cette courte série, c'est d'avoir une bonne compréhension de l'œuvre et du ministère du Saint-Esprit béni, pour que nous puissions rehausser et enrichir notre gratitude et nos actions de grâce et notre adoration que nous lui adressons. Peut-être l'un des versets les plus surprenants que notre Seigneur ait déclaré ou fait sortir de ses lèvres se trouve dans Jean 16. Je vous l'ai lu antérieurement. C'est vraiment un verset saisissant, si vous vous arrêtez pour y songer. Voici ce que notre Seigneur a dit dans Jean 16 au verset 7. « Je vous dis la vérité, comme il le faisait toujours. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Et nous allons nous arrêter une minute dessus pour poser la question. Comment les disciples auraient-ils reçu cela, puisqu'ils étaient avec le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant une période de 3 ans? Il était tout pour eux, absolument tout. En une occasion, selon Jean 6, Jésus a dit qu'après qu'un groupe de personnes soit parti, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre, parlant au nom de tous, a dit, « À qui irions-nous, toi et toi seul, à les paroles de la vie éternelle ? Nous n'avons l'intention d'aller nulle part. Tout ce que nous voulons savoir, tout ce que nous voulons voir, tout ce dont nous avons besoin, tu l'as, tu l'es. » Comment ont-ils pu gérer cette déclaration ? Il vous est avantageux que je m'en aille. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur que cela? Et quand vous songez au fait que pendant des millénaires les gens ont attendu la venue du Messie, que chaque génération du peuple juif, sachant que le Messie viendrait, ont souhaité être parmi les vivants quand il viendrait, et cependant, lorsqu'il est venu, les gens de cette époque l'ont rejeté, comme nous le savons bien. Mais il y avait un groupe de personnes, ses adeptes et ses disciples, qui l'ont embrassé. Et c'était l'accomplissement de toute l'histoire de la rédemption, depuis le temps de la chute et de la promesse que quelqu'un viendrait et écraserait la tête du serpent. Que c'était merveilleux que le Messie soit venu, que c'était merveilleux qu'il soit là. Il voulait qu'il reste et établisse son royaume, et ce serait la fin et le couronnement et l'accomplissement de tout. Pourtant, en cette dernière soirée ensemble, lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute avant que Jésus soit saisi et crucifié, il leur a dit, « Je pars, je vais m'en aller, et vous ne pourrez plus venir à moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Il est avantageux que je m'en aille. » C'est une déclaration étonnante. Comment cela pouvait-il être vrai? Il a dit ceci, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Qu'y a-t-il de meilleur que d'avoir Jésus, avoir le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit? Vous voulez dire que le Saint-Esprit n'était pas là? Non, je vous ai aussi lu dans le même passage des Écritures, il est avec vous, il sera, où? En vous. Le Saint-Esprit était toujours là. Le Saint-Esprit était le Créateur. Il se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse et créait. Le Saint-Esprit a toujours été celui qui donne la vie. Le Saint-Esprit a toujours été celui qui convainc. Il s'est toujours battu avec les hommes, comme il est dit dans Genèse 6. C'est le Saint-Esprit qui a toujours apporté la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Et depuis la chute, les hommes sont morts. Et il n'y aurait pas de salut dans l'Ancien Testament, pas de foi croyante, pas de repentance rédemptrice, pas de conversion authentique sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était là pour diriger et orienter. On peut voir le ministère du Saint-Esprit au temps de l'Ancien Testament jusqu'à un certain degré. Il est avec vous. Pourrait être une façon de comprendre que pour ces choses nécessaires comme le salut et la sanctification, le Saint-Esprit était requis. Et voici venu le Fils. N'est-ce pas une chose meilleure? N'est-ce pas une chose plus formidable que d'être dans la présence même du Fils de Dieu incarné? On le penserait certainement. C'est peut-être alors un pas de plus que ce que les gens avaient dans l'Ancien Testament. L'Esprit était là. Le Fils était promis. Et maintenant l'Esprit fait toujours son œuvre, alors que le Fils est aussi là. Comment Jésus peut-il donc dire « Il vous est avantageux que je m'en aille » La réponse à cela, c'est que le Saint-Esprit apporte aux croyants, depuis la fondation de l'Église jusqu'à présent, un ministère jamais connu auparavant. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était pas là. Ce n'est pas une question d'être absent ou présent. C'est une question de degré, de mesure. la meilleure chose qui puisse arriver à un peuple, mieux que d'avoir Jésus-Christ avec lui, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et c'est nous. Nous vivons dans cet état de fait. Merveilleux, merveilleux. Il est avantageux que je m'en aille afin que je puisse envoyer le Saint-Esprit. Mes amis, si cela est vrai, alors le Saint-Esprit est très, très spécial. Et effectivement, il l'est. Et au lieu des choses terribles qui sont attribuées au Saint-Esprit, nous voulons jeter un coup d'œil sur le véritable ministère du Saint-Esprit afin que nous puissions l'adorer et qu'il puisse, tous les membres de la Trinité, comme l'a dit Godwin, qu'il puisse demeurer en nous et recevoir une louange à part égale. Où devons-nous aller dans la parole de Dieu pour trouver le ministère du Saint-Esprit? Eh bien, nous avons choisi de regarder dans Romains 8. Ayant donc fait cette brève introduction, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romains 8 et nous allons jeter un coup d'œil sur le ministère du Saint-Esprit qui se révèle dans ce chapitre. En y allant, il se peut que nous nous écartions un tout petit peu et parlions d'autre chose, mais de toute évidence, nous n'allons pas essayer de couvrir chaque passage du Nouveau Testament qui a trait au Saint-Esprit, mais ces choses qui sont les plus essentielles et les plus importantes pour nous. Et dans Romains, au chapitre 8, nous avons un point de départ intéressant pour cela, parce que le ministère du Saint-Esprit est présenté ici, en rapport avec le salut. Souvenez-vous, dans les 7 chapitres initiaux de Romains, les thèmes sont liés au salut. C'est du salut qu'il s'agit. Cela commence au chapitre 1, au verset 16, par l'Évangile. Paul n'a pas honte, il prêche. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Ensuite, il commence à déballer l'essence de l'Évangile. Il parle du péché et du jugement. Et ensuite, il parle de la futilité qu'il y a à essayer d'accomplir la justice par soi-même. Il parle de la grâce et de la foi. Il utilise Abraham comme illustration. Il parle du sens de la croix et de notre union avec Christ. Et il est question de salut tout au long jusqu'au chapitre 8. Maintenant, nous entrons dans le chapitre 8 et nous faisons un saut dans une section qui constitue la récapitulation de la gloire du salut. C'est le résumé final du « Pourquoi nous sommes sauvés ?» C'est ici la plus grande bonne nouvelle, et cela nous est entièrement assuré par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Commençons au moins par les versets 1 et 2, et voyons ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Je vais vous donner une sorte de liste de courses des choses que le Saint-Esprit fait et qui ressort de ce chapitre. Mais vous devez comprendre où tout a commencé. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment cela est-il possible? Qu'il n'y ait pas de condamnation pour des pécheurs? Comment cela peut-il se faire? Réponse au verset 2. Car la loi, ou le principe de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ à cause de quelque chose que l'esprit de vie a fait. L'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit. Nous retrouvons donc le Saint-Esprit au verset 2. Et voici le premier point. Le Saint-Esprit nous affranchit de la mort en nous donnant la vie. Voilà la première caractéristique d'une vie de non-condamné. Mais retournons dans ce premier verset et reconnaissons que le terme « donc » lie ceci à tout ce qui a précédé. Tout ce qui a été dit au sujet du salut, dans toute sa gloire et toute sa beauté, il ne remonte pas au verset 25 du chapitre 7. Il ne remonte pas juste au chapitre 7. Il remonte jusqu'au chapitre 1, verset 16, où il a commencé à parler de l'Évangile. Tout cet enseignement de l'Évangile signifie donc qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. On peut, devant un Dieu infiniment saint, être comme un pécheur complètement corrompu et ne pas être condamné du tout, pas maintenant, jamais. Voilà la bonne nouvelle. Et pour comprendre cette bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce passage désigne chaque être humain qui naît dans ce monde comme un enfant de colère. Un enfant de colère. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Vous êtes des enfants de la colère. Vous êtes tous des enfants de la colère. Eh bien, c'est une façon de parler propre à l'hébreu. En d'autres termes, vous avez hérité la nature de ceux qui seront condamnés. Voilà ce que cela veut dire. Si vous êtes fils de la colère, ça veut dire que vous êtes condamné au jugement. Tous les hommes sont enfants de la colère. Ils sont sous la condamnation. Et c'est une condition misérable. quels sont les éléments de cette condition? Eh bien, nous sommes accablés par le péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous maudits. Nous sommes vaincus. Nous sommes littéralement submergés, accablés par le péché. Le péché est une maladie souillante qui paralyse l'âme de tout être humain, dégrade toute personne, trouble toute personne, vole la paix et la joie, les remplaçant par le trouble, la douleur, la peur. Il plante dans chaque cœur le principe mortel de la corruption qu'aucun homme ne peut jamais vaincre et qu'aucune personne humaine ne peut jamais guérir. C'est même pire que cela. Non seulement nous sommes désespérément pécheurs et méchants, mais nous sommes contrôlés par Satan qui est l'ange de la méchanceté, qui est le diable lui-même. Nous sommes membres de son royaume. Nous faisons partie de sa famille. Dans Jean 8, verset 44, il est écrit « Vous avez pour père le diable. Nous sommes les enfants du diable. Nous sommes dominés par le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2. L'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance, il opère dans tous les êtres humains, qui sont non seulement corrompus dans leur propre nature, mais davantage encore corrompus par l'œuvre de Satan en eux. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous voulez accomplir ses désirs, ce qu'il désire, vous le faites. » À la suite de ceci, nous sommes soumis à la vanité, comme le dit Romains 8, 20. Ce que cela veut dire, c'est que dans cette condition où nous sommes accablés par le péché et dominés par Satan, nous sommes soumis à tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a d'horrible. C'est ça la futilité de la vie, le néant, l'amertume, le chagrin, la douleur. Nous vivons dans le trouble, nous n'avons pas de paix, nous craignons la mort, nous sommes envahis par l'anxiété, sans espoir. Comme tel, Hébreux 10, 27 dit que « Nous sommes dans une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tout ce que l'humanité recherche, c'est l'enfer. L'enfer !» Nous sommes damnés à jamais, selon Apocalypse 20, verset 14, pour la seconde mort et l'étang de feu. Voilà le sort misérable de tous les êtres humains. Et quand ce châtiment s'abat, c'est une condamnation juste. C'est une condamnation juste. Romains 3 dit au verset 8 et 9 que c'est une condamnation juste. Nous avons enfreint la loi de Dieu. Galates 3 dit qu'en violant une loi, on a enfreint toute la loi. Notre condamnation est juste, comme le voleur sur la croix. Nous souffrons effectivement à juste titre. C'est ce qu'il a dit. En conséquence, donc, on récapitule tout cela, et le pécheur apparaît comme un enfant de colère sous la condamnation d'un Dieu saint, qui est offensé par chaque péché, et rend un jugement juste. La fin inévitable, alors, c'est l'enfer éternel. Et voilà la condition de chaque personne jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et dans notre texte, dans cette image sombre, notre texte apporte la lumière glorieuse. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le principe ou la puissance ou l'influence de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Honnêtement, la Bible est un livre qui condamne. Dans le 5e chapitre de Romains, il est dit qu'en Adam tous sont morts, que nous avons tous hérité de la nature pécheresse d'Adam. Romains 5 le dit encore et encore. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, nous peint un tableau effrayant du jugement dernier à venir qui s'abattra sur tous les pécheurs. Lorsqu'il dit que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges, avec sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il y a deux aspects de l'enfer éternel. L'un concerne les sens, c'est-à-dire la vraie douleur. L'autre concerne l'absence, de Dieu. C'est un vrai enfer. Et vous dites, eh bien, Dieu n'a-t-il pas envoyé sa loi afin que nous ayons des normes à respecter? Et si on respecte ces normes, il n'y aura pas de problème et on ira au ciel. C'est le malentendu le plus populaire dans le monde, un malentendu accablant, parce qu'aussi sainte que la loi puisse être, elle l'est parfaitement, parce qu'elle est juste un reflet de Dieu, une éthique codifiée de la nature de Dieu, rédigée et expliquée. La loi ne peut cependant pas nous rendre saints. La loi ne peut pas résoudre le problème du péché, et la loi ne peut pas nous donner l'issue pour échapper à la condamnation. Écoutez ce qui est dit dans Romains 3. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout ce que la loi fait, c'est de vous fermer la bouche lorsque vous voulez vous prévaloir de quelque bonté, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tout ce que la loi fait, c'est vous donner la connaissance du péché. Voilà tout ce que la loi de Dieu fait. Vous montrez le péché. Ce n'est pas le sentier à emprunter pour vaincre le péché. Ce n'est pas le sentier pour échapper à la condamnation que votre péché génère. Elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas changer votre condition. Elle ne peut que la révéler. Et elle ne peut rien changer dans votre condamnation. Elle ne peut que la faire respecter. En fait, la loi empire les choses, parce que la loi accroît les violations. Personne ne sera donc justifié par la loi devant Dieu, au contraire. Par la loi, notre culpabilité s'accroît, notre péché prend de l'ampleur. Il y a donc condamnation, et rien que condamnation pour ceux qui sont sous la loi. Parce que la loi ne peut pas sauver. La loi ne peut pas ôter la condamnation. La loi écrite, c'est ce que veut dire le verset 3 lorsqu'il déclare « Chose impossible à la loi parce que la loi la rendait sans force ». En d'autres termes, la loi ne peut pas agir dans les êtres humains pour le salut. Condamnation, ici, traduit le terme « catacrima ». Et il insiste plus sur le châtiment après la sentence que sur le jugement proprement dit. C'est un terme qui va au-delà de la sentence pour désigner le véritable châtiment. Et voici ce qui est dit ici. Il n'y a aucun châtiment pour ceux qui sont en Jésus-Christ, malgré toutes les violations, malgré l'infraction de la loi de Dieu, malgré une condition dans laquelle la condamnation serait juste et justifiée et sainte, correcte et méritée. Malgré cela, malgré notre corruption, malgré notre appartenance au royaume des ténèbres et à Satan lui-même, nous pouvons, par le salut, nous retrouver dans une situation où il n'y a aucune condamnation. Aucune. Est une négation ferme, un terme fort. Il y a plusieurs façons de dire non en grec. Celle-ci est une façon très ferme, absolument, explicitement, aucune condamnation. Maintenant, que je vous le dise, c'est cela la bonne nouvelle. C'est cela l'évangile. Aussi pécheur que vous êtes, il y a la possibilité d'accéder à une situation dans laquelle il n'y a pas de condamnation. Pas du tout de condamnation. Quelle est cette condition? Quel est ce lieu? Être en Christ, verset 1. Pour ceux qui sont en Christ, ou le verset 2. En Jésus-Christ, il s'agit de l'union avec Christ. Que signifie être en Christ? Cela signifie être en lui dans un sens très réel, spirituellement. Retournez une minute au chapitre 6 de Romains, au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés ou immergés, il ne s'agit pas ici du baptême d'eau, mais le terme immergé, ici, est employé dans un sens métaphorique. Nous tous y avons été immergés dans Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été immergés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par cette immersion dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En d'autres termes, nous sommes littéralement placés dans Christ dans sa mort et dans Christ dans sa résurrection. Nous mourrons en lui, nous ressusciterons en lui. Au verset 5 du chapitre 6, il est écrit « Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût anéanti, détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En Christ, nous mourons, nous ressuscitons encore. C'est ici notre union avec Christ, et voilà ce qui est déclaré. Et cela a été détaillé et déroulé comme je viens de le lire dans le chapitre 6. Mais dans tout cela et jusqu'ici, nous n'avons pas une définition de ce que c'est qu'être en Christ, parce que cela a été entièrement expliqué. Tout ce que nous devons savoir ici, c'est que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation, aucune, littéralement. Nous avons été placés hors de portée de la condamnation, hors d'atteinte de la condamnation. C'est ainsi que le chapitre s'ouvre, et c'est ainsi qu'il se termine. Si vous allez à la fin du chapitre 8, que lisez-vous ? Qui nous séparera, verset 35, de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Non. Au verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, énumérez toutes les choses réelles, toutes les choses imaginables, les choses qui sont, les choses qui n'existent que dans l'imaginaire. Aucune d'elles ne peut changer notre condition. Aucune d'elles ne peut modifier le statut de la non-condamnation. Nous avons été placés hors d'atteinte de la condamnation. Et tout ce chapitre est une preuve longue et vraiment palpitante de la sécurité des croyants. C'est de cela qu'il est question. Il est question de la protection et de la sécurité de ceux qui sont en Christ, de toute condamnation, maintenant et pour l'éternité. Même si Satan se montre, il est dit plus loin dans le chapitre, « Qui nous accusera devant Dieu ? Personne, jamais. Nous sommes hors d'atteinte de la condamnation. Et tout cela sera merveilleusement attribué au Saint-Esprit qui le fait pour nous. La raison pour laquelle nous sommes au-dessus de la condamnation, c'est que, le verset 2 le dit, « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » Le terme « loi » ici ne revêt pas un sens biblique, pas un sens codifié, mais il est employé dans le sens d'un principe d'une puissance dominatrice. La puissance dominatrice de l'esprit de vie nous a affranchis de la puissance dominatrice du péché qui mène à la mort. C'est une déclaration tout simplement étonnante, claire, précise sur le ministère du Saint-Esprit. Ceux d'entre nous qui sont en Christ sont vraiment en Christ. Nous sommes unis à lui. Comment sommes-nous entrés en Christ ? Nous avons bel et bien été placés en lui par le Saint-Esprit qui nous a tirés d'une condition de péché qui conduit à la mort et nous a donné la vie. Voilà pourquoi on l'appelle l'Esprit de vie, l'Esprit régénérateur, l'Esprit qui est vie, l'Esprit qui donne la vie. Toutes ces expressions sont employées pour décrire le Saint-Esprit. C'est Martin Luther qui avait dit, je le cite, « Il est impossible pour un homme d'être chrétien sans avoir Christ. Et s'il a Christ, il a en même temps tout ce qui est en Christ, ce qui donne la paix à la conscience. C'est que, par la foi, nos péchés ne sont plus les nôtres, mais ceux de Christ, sur qui Dieu les a tous déposés. Et que d'autre part, toute la justice de Christ est à nous, à qui Dieu l'a donnée. Christ nous impose sa main et nous sommes guéris. Il dépose sur nous son manteau. Et nous sommes vêtus, car il est notre Sauveur glorieux, béni pour l'éternité. Cette union que nous avons maintenant avec Christ est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous sort d'une condition de mort et nous établit dans l'union avec Christ. Nous sommes alors vivants en Christ. Ceci se produit par la foi. Nous le comprenons. Luther continue en disant, unis l'âme à Christ comme une épouse à son mari. Tout ce que Christ possède devient la propriété de l'âme croyante. Tout ce que l'âme possède devient la propriété de Christ. Christ possède toutes les bénédictions et la vie éternelle. Elles sont dès lors la propriété de l'âme. L'âme possède toutes ses iniquités et ses péchés. Ils deviennent dorénavant la propriété de Christ. C'est alors que commence un échange béni. Christ qui est Dieu et homme à la fois, Christ qui n'a jamais péché et dont la sainteté est parfaite. Christ le Tout-Puissant et l'Éternel prend sur lui tous les péchés du croyant par son anneau nuptial de la foi. Ses péchés sont perdus et abolis en lui, car aucun péché ne demeure devant son infinie justice. Et ainsi, par la foi, l'âme du croyant est délivrée du péché et vêtue de la justice éternelle, la justice de son époux Christ. Ô heureuse union, qui fait cela? C'est l'œuvre de l'esprit de vie qui nous retire de l'union avec le péché et Satan qui génère la mort et nous donne la vie. C'est l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Voilà ce que signifie le verset 2. Revenez encore juste un instant. En regardant la fin, nous avons été affranchis par le principe dominateur du péché qui produit la mort, la situation de mort spirituelle comme résultante du péché. Comment sommes-nous affranchis? Par la puissance dominatrice de l'esprit de vie, et cela ne peut que désigner le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie. Et c'est ainsi qu'il est désigné dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Vous pouvez y lire que la loi tue, la lettre tue, la lettre tue. L'esprit vivifie, au verset 6, verset 17, verset 18, Galates 6, verset 8, l'esprit qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Et si vous vous posez encore des questions à ce sujet, qu'a dit Jésus à Nicodème? Tu veux entrer dans le royaume de Dieu? Alors, tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'en haut. L'esprit est la source de vie. C'est lui qui donne la vie. Il est le régénérateur. Regardez Tite un instant. Dans Tite, il y a une déclaration formidable au sujet du salut qui, nous pouvons le voir, va ajouter du poids à ce que je dis et peut-être un peu de clarté. Mais remarquez que nous étions insensés au verset 3, Tite 3, 3, que nous étions désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, c'est-à-dire le mal, dans l'envie, digne d'être haï, nous haïssant les uns les autres. Voilà une description de chaque être humain. Une image pas jolie du tout. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Ici, on a la bonté de Dieu. Tout commence par l'amour de Dieu, se poursuit par la grâce de Christ et s'achève par la communion de l'Esprit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Comment nous a-t-il sauvés? Comment nous a-t-il sauvés de la situation de corruption et de malédiction? Comment nous a-t-il sauvés du domaine de Satan? Comment nous a-t-il sauvés de la tyrannie du péché? Comment a-t-il fait? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Bien, ce n'était donc pas par la loi. Ce n'était pas pour notre bonté, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement. De qui? Du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je ne suis pas sûr que nous connaissions vraiment toute la richesse du Saint-Esprit, mais nous allons ensemble essayer de comprendre cela. Comment le renouvellement s'est-il produit? Comment ce baptême est-il survenu? Comment cette régénération s'est-elle opérée? Comment cette vie est-elle venue? Comment, de qui avons-nous reçu la vie? Nulle autre personne que l'Esprit de vie. Comment l'a-t-il fait? Eh bien, je vous ai d'abord lu dans Jean 16. Il nous convainc du péché et de la justice et du jugement. Ensuite, il nous apporte l'Évangile. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu a soufflé du terme « pneuma », l'Esprit de Dieu. Des hommes saints furent poussés par le Saint-Esprit, dit Pierre, et ont écrit les Écritures. L'Esprit est donc l'auteur des Saintes Écritures. Premièrement, donc, le Saint-Esprit convainc le pécheur. Deuxièmement, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de l'Évangile, apporte l'Évangile, afin que nous naissions de nouveau selon Jacques 1, 18, par la parole de la vérité. 1 Pierre 1 dit la même chose. Nous sommes régénérés par la parole de la vérité. C'est l'Esprit qui convainc. L'Esprit est l'auteur de l'Évangile qui nous est apporté. L'Esprit devient notre enseignant. Il ouvre l'intelligence par sa puissance régénératrice. Et nous croyons l'Évangile. Nous nous détournons du péché. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà effectivement pris du temps pour remercier le Saint-Esprit pour ce qu'il vous a donné. Pour vous avoir convaincu de péché et de la justice et du jugement, pour avoir écrit les saintes Écritures, l'Évangile de gloire, la parole de vérité. L'Esprit de vérité qui vous a apporté la parole de vérité, et qui ensuite vous a donné la vie et la compréhension pour que vous entendiez la vérité. Vous avez été régénéré. Vous vous êtes repenti. Vous avez cru la vérité. Vous avez bel et bien été délivré de la condition de pécheur et de la mort pour vous mettre dans une condition de vie. Et maintenant, votre condition dans la vie est une condition non seulement de personne vivante, mais aussi de personne ayant été revêtue de la justice même de Christ. Vous êtes au-dessus de la possibilité de condamnation, au-dessus de cette possibilité. Comment l'Esprit a-t-il pu faire cela? Comment le Saint-Esprit peut-il le faire? Il peut le faire à cause de la condition au verset 3, que nous examinerons un peu plus la prochaine fois, seulement pour vous en faire une introduction. La loi ne pouvait pas le faire. Elle était faible parce que la loi ne pouvait rendre la chair forte. La loi ne pouvait pas faire un homme meilleur. Elle pouvait établir la norme parfaite, mais elle ne pouvait pas créer un homme capable de la respecter. Elle était donc rendue sans puissance par la chair. En d'autres termes, elle est faible, non elle-même, mais dans le sens que la chair ne peut pas l'observer. Mais Dieu a fait ce que la loi ne pouvait pas faire. Et il l'a fait par le Saint-Esprit. Et il l'a fait par le sacrifice de Christ en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, en offrande pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair. Permettez-moi de vous montrer la différence. Vous voyez cette dernière ligne, il a condamné le péché dans la chair. Vous savez ce que la loi est capable de faire. La loi peut condamner le pécheur. La loi condamne vraiment le pécheur. La croix a condamné le péché. Vous voyez la différence? La loi ne peut pas condamner le péché. Seule la croix l'a condamné. La loi condamne le pécheur à mort. La croix condamne le péché à mort. Le péché meurt. Il n'est plus maître de nous. Il n'a plus de pouvoir sur nous, une force dominatrice. Il ne peut plus en appeler à un juste jugement et à une exécution. La loi condamne le pécheur. La croix condamne le péché. Comment le fait-elle? Parce que sur la croix, Jésus paie le prix totalement. L'exigence du péché, qui était fixée par Dieu lui-même, est payée dans la totalité. C'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'il dit qu'en sa mort, nous nous sommes identifiés à lui. Lorsqu'il est mort, tous nos péchés étaient avec lui. Et le prix a été payé entièrement. La loi ne pouvait pas le faire. Croyez-moi, la loi condamne chaque pécheur. La loi ne peut pas condamner le péché, mais la croix condamne le péché. Pour ceux qui sont en Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette semaine, je cherchais des cantiques sur le Saint-Esprit, parce qu'il y a quelques chansons consacrées au Saint-Esprit. Ce sont des chansons en quelque sorte larmoyantes, sirupeuse, sentimentale, mais je fouillais et je me suis imaginé que je consultais un recueil de cantiques presbytériens. Un presbytérien est souvent un peu plus théologique. Et j'ai trouvé ceci. Je ne l'avais jamais écouté, je ne sais quoi. Je pouvais fredonner cet air, mais ce ne serait d'aucune utilité à personne. Mais il y a un vieux cantique consacré au Saint-Esprit. C'est le seul que j'ai trouvé. Et il se chante ainsi. Esprit, nous t'adorons, suprême don de résurrection venu de ton trône élevé. Plénitude de la Trinité, viens nous transmettre ta vie. Voilà exactement ce que le Saint-Esprit a fait. Il est venu nous donner la vie de Dieu. Et puis cet auteur, qui en passant s'appelle Margaret Clarkson, vous en savez certainement quelque chose sur elle, le cantique se chante. Et je l'ai corrigé un tout petit peu, mais il s'adresse au Saint-Esprit. Toi, qui à l'aube de la création couvais l'abîme sans vie, toujours agis au-dessus des ténèbres de notre nature pour réveiller nos âmes du sommeil. Agis pour stimuler, attirer, raviver, nous rendre conscients du péché. Nous fais naître et nous scelle et nous remplit, avocat intérieur du salut. Toi-même, l'auteur vivant, emmène à la vie la parole sacrée. Lis les saintes pages avec nous et révèle notre Seigneur ressuscité. C'est toi qui œuvres en nous, enseignant au cœur rebelle à prier. Toi, dans la sainte intercession, s'élève pour nous nuit et jour. Cela est tout à fait vrai, et c'est une raison de donner la gloire au Saint-Esprit. Amen. Père, nous te remercions pour le temps que nous avons pris ce matin à réfléchir sur ces choses, et nous ne faisons qu'égratigner les bords de ces grandes vérités, mais nous en avons déjà tant à assimiler et à saisir sur l'immensité de l'œuvre de Christ sur la croix. Nous te remercions d'avoir permis que le Saint-Esprit nous donne la vie. Le fait que le Christ ait porté nos péchés dans son propre corps sur la croix le fait qu'il fût blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, que le châtiment qui nous donne la paix soit tombé sur lui, que par ses meurtrissures nous sommes guéris, que lui qui ne connaissait pas le péché s'est fait péché pour nous afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Le fait qu'il soit devenu malédiction pour nous, toutes ces grandes réalités de l'œuvre de substitution de Christ, la provision nécessaire, la ratification nécessaire de l'initiative divine, permettent l'application et la communion du Saint-Esprit pour nous donner la vie, et nous donner la vie qui nous élève au-dessus de toute condamnation, sachant que Christ a été effectivement condamné pour nos péchés. Rien ne peut nous condamner. Quelle nouvelle extrêmement glorieuse! Nous te remercions, Père, pour un amour si initiateur. Nous te remercions, ô Christ, pour un tel sacrifice de grâce. Et nous te remercions, ô Saint-Esprit, de nous avoir donné la vie et de soutenir cette vie jusqu'à ce que nous voyons Christ face à face et parvenions à sa stature. Nous t'adorons, notre Dieu trinitaire, et nous le faisons avec joie et gratitude. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.